Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et au chapitre 3. Nous avons commencé ce chapitre dimanche dernier. Nous sommes dans cette série d'études dans Éphésiens depuis quelques dimanches et je crois que je vais relire quand même ce passage, donc à partir du verset 1. Jusqu'au verset 13, parce que c'est tout ce passage, c'est le thème, c'est le mystère de Christ. Donc Éphésiens, chapitre 3, et au verset 1. Donc comprenez que lorsqu'il parle de ce mystère, il parle du fait que païens et juifs vont être rassemblés en un même corps. Il parle de païens croyants qui ont reçu Jésus-Christ, de juifs croyants qui ont reçu Jésus-Christ. Et donc, ils vont former un même corps. C'est ce que nous voyons au verset 6, vous le verrez en passant. Et pour l'apôtre Paul, comprenez que c'est une pensée qui est vraiment nouvelle. Hein. C'est lui, hein, vous le connaissez, il avait été pharisien des pharisiens, comme il dit, de la secte la plus stricte. C'était un intégriste du judaïsme, hein, à une époque, quand il était le persécuteur de l'Église. Et pour lui, il y avait le peuple juif, et puis après les autres, c'était loin derrière. Hein, c'était vraiment le peuple juif, c'est le peuple de Dieu, et tout est là. Et si vous voulez quelque chose de la part de Dieu, il faut aller faire partie de ce peuple-là. C'est comme ça qu'il a été élevé, c'est comme ça qu'il a été éduqué. Et pendant longtemps, c'est ce qu'il a pensé être vrai. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, ils se rendent compte que finalement, eh bien, juifs et païens doivent venir à Christ. Et ensemble, ils formeront un même corps. Et ils auront tous les mêmes privilèges et les mêmes joies. Vous savez, c'était une pensée choc. Hein. Ce serait comme si je vous disais aujourd'hui que, par exemple, les sionistes d'Israël et les membres du Hamas se sont réunis. Vous dites, c'est pas possible. Mais c'est vraiment, à l'époque, c'était vraiment une pensée choc. Et donc, l'apôtre Paul vraiment fait un cas, et c'est sûr que ça a pris du temps pour que même l'Église et les Juifs venus au Christ s'y habituent. Et aujourd'hui aussi, nous avons besoin, parce que vous savez, on se trouve dans une situation où il y a tellement de clochers, il y a tellement de mouvements chrétiens, et on ne sait plus, et chacun prétend être la vérité. Bien sûr, c'est nous, hein. Mais chacun prétend que qu'il est dans la vérité, qu'il a toute la vérité. Et puis, au point que chacun a son petit endroit, chacun a ses bouquins, ses cantiques, ses éditions, ses livres. Et c'était pas comme ça que Dieu avait prévu la chose. Hein, la pensée de Dieu, c'est que soit réuni. Eh bien, la chose, c'est que de pouvoir chacun de nous, dans notre pensée, nous élever au-dessus de toutes ces petites appartenances. Elles sont là, on est sur Terre, c'est bon, il y a des raisons pratiques, plus ou moins. Mais dans notre cœur, dans notre foi, c'est nous élever au-dessus de cela et de nous rendre compte que tous les enfants de Dieu, peu importe dans quel milieu ils sont issus, s'ils sont en Jésus-Christ, ils forment un même corps. Qu'ils viennent, peu importe de la nationalité, peu importe de leur rang social, peu importe de leur position politique ou leur manière de concevoir le monde, si on est en Jésus-Christ, on forme un même corps. Hein, alors, on sait qu'on a les pieds sur terre et qu'il y a des complications, des difficultés sur terre, mais sachant au fond de notre cœur, c'est qu'il y a une seule Église et c'est celle qui est formée par l'ensemble des croyants. Hein, donc ça prime par-dessus tout et ça doit influencer même nos petites particularités terrestres. Donc je commence à lire, je vous ai donné le temps de trouver. Éphésiens chapitre 3, je lis au verset 1. Il dit « à cause de cela ». Donc il venait de dire que justement Dieu avait réussi à rassembler tout cela pour former un même édifice. Il dit « à cause de cela, moi Paul ». Le prisonnier de Christ pour vous païens. Et puis ensuite, il prend une pause, il s'arrête. Il dit, bon, on va expliquer quelque chose. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Nous avons vu les quatre premiers versets dimanche dernier et nous allons prendre les versets 5 et 6 aujourd'hui. Et j'ai intitulé ce message « En Jésus-Christ par l'Évangile ». C'est la fin du verset 6, il dit « En Jésus-Christ par l'Évangile ». C'est ça la clé, c'est là tout se revient. C'est le fait d'être en Jésus-Christ et puis c'est l'information est venue par l'Évangile. Cette bonne nouvelle que Dieu a préparée. Alors la première chose, c'est cette révélation du mystère. Le mystère existait. Mais depuis la croix, depuis Pentecôte, une nouvelle dispensation, une nouvelle économie, une nouvelle gestion, une nouvelle manière de révéler, d'enseigner, une relation avec Dieu, vient en existence. Et vous savez, c'est la dispensation précédente, c'était celle de la loi, celle de inaugurée par Moïse. Et alors, tout le monde devait se conformer à la loi mosaïque. Tout le monde devait suivre cette loi, offrir les sacrifices. Et c'était très long et compliqué. Et c'était réservé à un peuple. Et c'est au travers de ce peuple qu'on pouvait s'approcher de Dieu. Et là, depuis la croix, parce que Christ est mort, parce que le sacrifice est offert, parce que tout est accompli, hein, Jésus a pu le dire sur la croix, tout est accompli, tout est en place, maintenant je peux vous offrir quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, et on appelle ça cette dispensation, celle de la grâce, parce que là, tout d'un coup, la porte est grande ouverte, et n'importe qui, de n'importe où, peut venir directement à Dieu. Et donc, c'est sûr que c'était un plaisir pour Dieu de pouvoir offrir cela au monde. Et en particulier, cela que ça veut dire matériellement pour l'époque, c'était que le fait que juifs et païens, eh bien, ils étaient sur un même niveau et ils s'approchaient de la même manière. Et c'était vraiment nouveau pour eux. Et Paul dit au verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. C'est-à-dire, il existait dans les autres générations. C'est quelque chose, c'est un plan que Dieu a depuis longtemps. Mais il n'a pas été révélé. Ils ne l'ont pas vu. Et c'est seulement là, après la croix, après Pentecôte, Et l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, a donné cette capacité aux disciples de pouvoir parler dans de multiples langues. Ben, c'était un message clair. C'était que c'est pour tous. C'est pas votre langue, il ne faut pas une certaine langue pour s'approcher de Dieu, comme existent encore des religions aujourd'hui. Mais c'est, quelle que soit la langue, c'est le fait, ce que Dieu veut, c'est que les hommes s'approchent de lui. Et là, donc il dit que c'est dans les derniers temps que ça a été révélé. Il dit « au fils des hommes ». Au fils des hommes, l'expression signifie finalement l'humanité, hein, l'humanité tout entière, croyant et non-croyant. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé dans le passé à l'humanité, mais qu'il l'est. Et il ajoute, hein, il dit « maintenant hein. ». C'est un plan qui existait déjà, qui était resté caché. C'est pour ça que c'est appelé un mystère. Le mystère, ça ne veut pas dire que c'est bizarre. Le mystère, ça veut dire que c'était une chose qui était cachée et qui, et par la suite, est révélée. Hein. C'est ça le sens du mystère dans la parole, dans le Nouveau Testament. Ce projet de Dieu de vraiment offrir le salut à tous les hommes, il l'a depuis longtemps. Alors, il en a parlé déjà, si vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 22, quand Abraham a offert son fils Isaac. Et alors, et Abraham l'a offert, et puis finalement, Abraham dit, c'était surtout pour t'éprouver, c'est pas vraiment que je voulais prendre ton fils, mais c'était pour voir si tu m'aimais plus que ton fils, ton unique, ton bien-aimé. Et alors, au verset 18, je vais commencer un peu avant, verset 17, il dit, Genèse 22, verset 17, dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Donc ça, c'est une promesse pour toi. Mais ensuite, il ajoute, et ce qui nous intéresse, il dit, « Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Il dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » La postérité, normalement, on en a plusieurs, hein, surtout avec le temps, il en a eu plusieurs. Mais là, Dieu pense à une postérité, une génération particulière. Et dans Galates, il nous dit, c'est Jésus-Christ. Il dit, toutes les nations seront bénies dans cette postérité particulière, celle de Jésus-Christ qui est ton descendant. C'était une promesse, c'était le plan de Dieu. Il n'a pas dit, je vais multiplier ton peuple, tes descendants, et puis c'est eux. Non, il a dit toutes les nations. Si je continue à lire, et j'aurais pu donner d'autres références, il y a Genèse 26, 4, Genèse 28, 14, mais regardez dans le psaume 72, j'essaie de prendre un peu ici et là pour montrer que ce n'est pas l'inédit qui, à une certaine époque, mais qui était tout le long, hein, tout le long de l'Ancien Testament déjà. Alors, psaume 72, et on pourrait lire tout le psaume, et vous pouvez le noter, mais je vais lire surtout les versets 17 à 19, donc à la fin. Le psaume 72 et versets 17 à 19. Et ça, c'est un psaume de David. Hein. C'est une des prières de David. Et il dit, « Son nom subsistera aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera par lui. » On se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. Il dit, donc c'était la prière de David. Il dit, mais le jour viendra où c'est le monde entier. Toutes les nations viendront bénir le Dieu, l'Éternel. Ésaïe, le prophète Ésaïe, un grand prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 11 et verset 10. Ésaïe chapitre 11 et verset 10. Il dit, en ce jour-là, le rejeton d'Ésaïe. Le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus-Christ, hein, prophétiquement. Donc Isaïe, c'est le père de David. Hein. Donc le descendant, le fils de David. Donc il dit, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc là, déjà, il parle, Jésus n'est pas encore arrivé, il projette ce jour où le fils d'Isaïe, le Jésus-Christ, eh bien, il sera là et c'est toutes les nations, tous les peuples viendront adorer. Il y a aussi Ésaïe 56, passage que Jésus a cité lorsqu'il était dans le temple. Hein, vous vous souvenez que quand il a chassé les vendeurs et tout cela, et puis il a dit que ma maison sera une maison de prière. Eh bien, dans Ésaïe 56, donc le passage qu'il citait, regardez comment c'est dit. Ésaïe 56, verset 7. Il nous dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, donc Jérusalem, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » C'est une maison de prière pour tous les peuples. Ça, c'est l'intention de Dieu. Et c'est très important. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est marqué depuis longtemps. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est là depuis longtemps. Mais vous l'avez pas vu. Mais maintenant que Jésus-Christ est mort, on peut tirer le rideau. Et puis vous allez voir que finalement, c'était tout fait. Et c'était tout prévu. Et que c'était là. Et quelque chose de merveilleux. Et puis après, bien sûr, on pourrait aller dans le prophète Joël. Prophétie qui est citée par Pierre lorsqu'il se lève dans Jérusalem, et puis il parle de il dit vos enfants parleront en langue, et déjà, donc c'est annoncé, mais c'est Joël qui l'a annoncé déjà, et dit où viendra, où le peuple de Dieu parlera en mainte langue, et ils viendront de partout, ils parleront en différentes langues, parce qu'ils viendront de différents endroits, hein, et donc, notre langue, c'est un peu notre identité, c'est notre origine, hein, on parle toujours de cela. Et donc, il dit, mais les gens viendront, et dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, au fur et à mesure que le soleil avance, eh bien, la louange monte en différentes langues jusqu'à Dieu, et chacun dans sa langue. Et tout ça à la gloire de Dieu. Hein, donc, c'est un plan que, c'est pas quelque chose que l'apôtre Paul a inventé. Hein. C'est quelque chose qui n'était pas dans sa tête, il n'avait pas été éduqué de cette manière-là, il n'y aurait jamais pensé, c'était quelque chose de complètement étranger à lui, et c'est pour d'où l'importance et d'où le fait que ce soit Paul qui en parle, c'est ça qui est extraordinaire. On sait que c'est l'œuvre de Dieu, parce que ça ne pouvait pas venir de lui, ce n'était pas dans son cœur, ce n'était pas dans ses pensées, ça n'existait pas à cette époque. Donc si Paul a parlé, eh bien, c'est que, et comme il nous dit dans ce passage, donc Éphésiens chapitre 3, verset 5, il nous dit que c'est l'Esprit qui l'a révélé. Hein, donc, je relis ce verset 5, Éphésiens 3, verset 5, il dit, n'a pas été manifesté aux hommes, aux fils des hommes, dans les autres générations, donc passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, c'était une révélation par l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas des hommes ou une assemblée, ou ce n'est pas un concile, ça ne vient pas de chez les hommes, mais ça vient de Dieu, comme toute parole de Dieu. Et dans ce contexte, je veux lire ce passage de Pierre, chapitre 1, et versets 20 et 21, hein, pour vous qui prenez des notes, 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être, remarquez, aucune prophétie, hein, de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Hein, donc c'est jamais, si un prophète a apporté une prophétie, eh bien ça venait pas de lui. Et souvent, ils ont parlé de choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer, ne pouvaient pas concevoir. C'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Et ils disent, et ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Et c'est là où on voit, et c'est quand on voit qu'une révélation, c'est quelque chose qui ne ressemble pas aux hommes. Et après, on se dit, mais là, il y a de fortes chances que ça vienne de Dieu. Et tout ce concept du salut, alors que vous regardez tout autour de vous, tous les mouvements religieux, c'est toujours une question de fais ceci, fais cela, continue à faire ça, fais pas ceci, toujours pour gagner le ciel. Hein, chacun sa liste, et toujours la liste, elle est là, et puis tous les gens qui y adhèrent, eh bien, vous diront, je ne peux pas la garder, et je ne suis jamais sûr d'être sauvé. Tandis que l'Évangile nous présente un autre moyen de salut, où c'est lui qui a tout fait, et c'est lui qui a tout accompli, et c'est à nous, finalement, de nous identifier à lui pour jouir de cette œuvre. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 5, il dit « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Donc il ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament, il parle des prophètes du Nouveau Testament. Hein, donc les saints apôtres et les prophètes de Christ, les prophètes, parce qu'il y en avait dans le Nouveau Testament, vous lisez les Actes des Apôtres, il y a eu des prophètes. Et alors, cette pensée, l'Évangile, le message de l'Évangile et l'Église de Christ, donc ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour un peuple particulier. Et donc ceux qui disent, parce que ça se dit, que disent que le christianisme, c'est la religion des Blancs, et que ça a été exporté, ça a été importé dans d'autres pays, eh bien, ces personnes-là n'ont pas compris le mystère de Christ. Parce que le message dans ce texte, eh bien, il n'a pas dit que c'était pour un peuple particulier, surtout pas d'une couleur particulière, non pas d'une culture particulière, non pas, c'est pas la religion de l'Occident, parce que son origine n'est pas dans l'Occident. C'est un message qui est pour tous les hommes, sans distinction. Et l'Évangile de Christ n'est pas une religion qui est proclamée, parce que les religions, malheureusement, et c'est ça leur réputation, elles favorisent certains peuples, certaines langues et certaines régions. Elles sont plus, et on peut mieux les pratiquer dans certains pays que dans d'autres. Mais l'évangile de Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est une personne, c'est la personne de Christ. Et c'est un message qui nous dit qu'à travers de la personne de Christ, nous pouvons arriver à être en communion avec Dieu, le Créateur. Et donc c'est ça le message, et c'est pour ça qu'il est au-dessus de tous les ismes que le monde peut avoir. La révélation du mystère, et merci Seigneur qu'il l'a révélé, et puis que nous sommes à cette époque où nous jouissons de cela. Et on n'est pas obligé de renier nos origines, ni de renier notre culture pour arriver à Christ. Mais on vient dans l'état où nous sommes à Christ. Le mystère de Christ, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le thème de ce chapitre, hein, vous le voyez au verset 3, vous voyez au verset 4, vous voyez au verset 6, vous voyez au verset 9, il parle de ce mystère et qui est révélé dans les derniers temps. Et c'est pas une idée qui est seulement aux Éphésiens, parce que l'apôtre Paul en parle aux Romains, Romains chapitre 16 et versets 25 à 27, eh bien, il parle justement de ce mystère et il dit que ce mystère, c'est à la louange de Dieu. C'est une chose si merveilleuse que c'est vraiment le fait de ce mystère, le fait de cette réalité que tous les hommes peuvent être unis en un seul corps, eh bien, est à la gloire de Dieu. Je lis les versets 26 et 27. La phrase commence au verset 25. Hein, donc je commence à lire au verset 25. Il dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifestée maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et portée à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu, seul sage, soit gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Il dit ça, aïe. Il dit, quand je comprends ça, quand je saisis ça, je suis obligé de dire gloire à Dieu. Il dit que quand je comprends ce mystère de Christ qui est là depuis longtemps, qui est révélé dans ces derniers temps, et les prophètes en ont parlé sans le comprendre, mais ce qui est porté maintenant à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Hein, ce mystère est un sujet de louange pour l'enfant de Dieu. On est un peu, à notre époque, 2000 ans après, on est un peu habitué à la chose, et puis on a l'habitude de voir des chrétiens un peu partout dans le monde, et puis on ne se rend pas compte, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis surtout quand vous vous rendez compte que pour d'autres religions, eh bien, on pense à une religion, on pense à une région. Tandis que pour le christianisme, on ne peut pas penser à une région. Par tort, c'est à tort que ça a été attribué à l'Occident, parce que ce n'est pas issu de l'Occident, et peut-être dans le monde aujourd'hui, c'est peut-être l'Occident où il y a le moins de chrétiens. Hein, le pourcentage est le plus bas. Hein, le pourcentage est plus élevé en Afrique, il est plus élevé en Chine, il est plus élevé qu'en Occident. Hein, donc n'associons pas le christianisme à une partie du monde. C'est un message pour le monde entier. Et l'apôtre Paul ressentait fortement ce besoin de faire connaître ce message. Et il le dit dans Éphésiens chapitre 6 et versets 19 et 20. Et Éphésiens 6, versets 19 et 20, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Il dit, priez pour moi, pour que je puisse l'annoncer. Pour moi, je sens l'obligation de le faire connaître, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je reviens à Éphésiens chapitre 3, et remarquez ce verset 6, il dit, « Ce mystère, c'est que les païens sont, et ça c'est co-héritiers. Ah, jusque-là, le juif, il ne voulait pas toucher la main d'un païen. Et puis en allant à la synagogue, surtout pas se laisser toucher par lui, parce qu'il va être souillé. Et là, tout d'un coup, c'est pas seulement vous pouvez vous dire bonjour et vous pouvez serrer la main, vous êtes co-héritiers. Et dans Romains 8, 17, il dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8, 17. Il dit « Nous sommes héritiers de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, hein, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, mais il dit « Mais nous sommes co-héritiers ». C'est-à-dire, on hérite de la même chose, au même niveau. Hein, on est tous pareils. Hein, il n'y a pas un qui dit, ouais, ben ça c'est un héritier, mais ça c'est premier degré, puis ça c'est héritier deuxième classe. Non, non, vous êtes co-héritiers. En même temps, vous héritez de tout ce qui est que Dieu a préparé pour nous. Et il nous dit aussi, dans ce passage, il dit... c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Il dit, c'est pas un assemblage, c'est un même corps, c'est une unité. Hein, si vous deviez couper votre corps en deux, vous passeriez par où? C'est pas évident. On ne peut pas le couper en deux. C'est une unité. C'est un corps. Il dit, vous êtes un même corps. Ça, on ne peut pas séparer. Une fois que ça a fusionné, et que le corps a été formé, on tue, on déchire, on massacre quand on sépare. Hein, c'est un peu comme un mariage. Il dit, le mariage, vous devenez un. Et c'est pour ça qu'il y a un tel déchirement quand on se sépare. C'est pas comme un commerce, on est associé, et puis après, bon, bah, ça va pas, bah, écoutez, bon, je te vends ma part, et puis on s'en va. Hein. Et ça peut aller assez facilement, ça peut coûter, il y a parfois des pertes, mais bon, c'est autre chose, mais ça se fait. Mais un mariage, ah là, non, c'est émotionnel, c'est tout, on déchire, et c'est plus pareil. On ne retrouve plus la virginité première dans la pensée, dans la relation, tout ça. Quand il y a... Parce que c'était un. Il dit, là, vous êtes un même corps. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Hein. Ce n'est pas seulement pour le mariage, mais aussi pour les êtres humains. Hein, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et il dit, vous êtes un même corps. Et puis ensuite, il ajoute, hein, pour que ça soit vraiment clair, et participe à la même promesse en Jésus-Christ. Participe à la même promesse. Tout ce qui est pour l'un est pour l'autre. L'une des promesses, c'est que Jésus-Christ, il a dit, je vais vous préparer une place. Ce n'était pas uniquement pour les 12 disciples. Il dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai, je vous prendrai. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, eh bien, il nous parle de ce que nous serons tous enlevés, tous ceux qui sont en Christ, enlevés pour être avec lui dans les airs. Et si vous lisez Apocalypse 5, chapitre 9 et 10, chapitre 5, versets 9 et 10, eh bien, il nous dit que l'apôtre Jean a regardé, il a eu cette vision céleste, et il a vu ce que Dieu a en vue, parce qu'il a vu l'enregistrement du film avant que ça arrive. Hein? Et il a regardé et il a vu des gens de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Il a dit, mais j'ai vu de tout là-dedans. Hein? Donc, quand vous imaginez la chorale céleste formée par l'ensemble des enfants de Dieu, imaginez-la en couleur. Hein? Parce que lui, quand il a vu, il a pu voir que c'était des gens de toute tribu, de toute race. Hein, donc, on a tous les teints et tous les métissages possibles étaient là. Il a pu le voir, il a pu le conseiller, il a dit, waouh, ils ne ressemblent pas tous à des Juifs. Hein. Et surtout pas à des Suédois. Il a dit, j'ai vu de tout. Et donc, il a dit, participent tous à la même promesse. Ça, c'est un plan que même les hommes, avec leurs Nations Unies, avec leurs toutes sortes de choses, n'arrivent pas à créer. Mais c'est le plan de Dieu, c'est une chose extraordinaire à laquelle nous pouvons participer et nous pouvons avoir droit lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et remarquez, en plus, Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10, Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10, il dit, c'est la première fois qu'il fait mention de ce mystère dans cet épître, il dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc le projet, le grand projet duquel fait partie ce mystère, hein, Dieu veut rassembler tout en Christ, tout, que tout soit en Christ. Et il a dit, et en particulier, eh bien, tous ces gens qui me reçoivent, qui reçoivent Jésus-Christ, qui bénéficient du pardon grâce au sang versé de Christ, eh bien, que eux soient en Christ. Remarquez la première chose, en Christ. Qu'ils soient en Christ, ça fait partie du mystère. Maintenant, je lis dans Colossiens 1, 26 et 27. Donc, Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Il dit, « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous. Donc, d'un côté, le mystère, c'est que tout soit en Christ. Et d'un autre côté, le mystère, c'est que Christ soit en tout. Mais comprenez que c'est ça la définition d'unité chez Dieu. C'est d'être lui en lui. Hein. Il disait du Père, il dit, moi je suis dans le Père, le Père est en moi. Hein. pour dire qu'on est un, pour dire que nous sommes vraiment cette unité qu'il veut réaliser. Il dit, bon, vous, vous êtes tous ensemble, mais après, moi, je suis en vous et vous, vous êtes en moi. Et c'est ça la vraie unité, et c'est une unité qui est impossible de défaire une fois qu'elle est constituée. Et d'où, bien sûr, en passant, hein, c'est ça qui garantit notre salut. Hein, c'est, on n'est pas sûr de notre salut parce qu'on est beau, on est parce qu'on est gentil, parce qu'on s'appelle Steve ou Pierre. Mais c'est parce qu'on est en Christ et Christ est en nous. Pour terminer, regardons à la prière de Jésus. Vous vous rappelez, Jésus, dans la chambre haute avec ses disciples, il a mangé à la table. Et puis après, il a discuté de pas mal de choses. Hein. Donc il est, le chapitre 13, il est à table. C'est là qu'il lave les pieds des disciples. Et puis ensuite, il sert la scène. Et après, les chapitres 15, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Chapitre 16, eh bien, il dit « Je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint qui viendra parmi vous ». Et puis le chapitre 17, c'est sa prière. Vous savez, Jésus a souvent prié au Père. Le plus souvent il a prié, les disciples n'étaient pas là, et nous on a très peu de textes des prières de Jésus. En fait, c'est surtout celle-ci, hein, c'est la grande prière, celle qu'on appelle à notre Père. Finalement, c'était une prière modèle, c'était pas une prière qu'il a priée, c'est une prière, il a dit voilà une prière modèle pour vous. Tandis que Jean chapitre 17, c'est celle qui est vraiment la prière du Seigneur, c'est celle qu'il a priée lui-même, et il l'a priée devant ses disciples. Et nous l'avons pour pouvoir la relire. Il dit, si jamais vous avez du doute, alors vous relisez. Hein, donc, Jean chapitre 17, regardez ce qu'il prie. On ne va pas lire toute la prière, mais regardez un détail. Pour lui, c'était important, hein, mais si se peut que nous, on ne se soit jamais arrêté là-dessus. Mais Jean chapitre 17, et donc, lisons les versets 20 à 23. Jésus commence le verset 20 et dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, nous sommes inclus. Hein, c'est pas seulement pour ces 12 qu'il prie, c'est pas pour ceux de son époque, c'est pour tous ceux qui croiront par la suite. Hein, donc, nous sommes inclus. Regardez ce qu'il demande. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous avez vu ça? Il dit, ce que je prie, c'est que, comme toi et moi, nous sommes un dans l'autre, donc impossible de nous séparer, de même que eux, pour eux, eh bien, que je sois en eux et qu'eux, ils soient en moi. Et c'est le mystère. Finalement, Jésus l'a prié et l'a désiré, même si ça a été révélé par la suite et que les disciples ont pris conscience après. Hein, Pierre, ça lui a pris un peu de temps pour comprendre cela. Il a dû avoir cette vision sur le toit pour l'aider à déjà le préparer à comprendre cette notion. Mais c'est la pensée de Jésus-Christ. Jésus l'avait déjà prié. Donc ce n'est pas Paul qui a... Il a dit, ça a été, moi je l'ai compris, et contraire à ma nature et ma pensée et la manière dont j'ai été éduqué, mais je l'ai enfin compris. Mais finalement, c'est une chose qui existait depuis longtemps, et pour laquelle Jésus a prié, pensant à nous. Et donc, vu cette unité qu'il veut créer, c'est pour ça que c'est tellement important, et c'est important pour nous de commencer à penser de cette manière-là, parce que c'est lorsque nous pensons comme Jésus que nous penserons comme Dieu. Et ça influera notre manière de voir, de percevoir, de regarder, de parler. Et puis on dit, finalement, il y a une chose merveilleuse là, il faudrait que d'autres en sachent, soient au courant. Et donc, cette unité, eh bien, elle est pas pour les gens qui sont nés dans un certain endroit, mais c'est pour ceux qui viennent à Jésus-Christ. Peu importe l'origine, peu importe si tu es croyant ou pas croyant, peu importe ce que tu as pu faire. L'apôtre Paul dit, moi j'étais un homme violent, et j'étais un homme, un meurtrier, et j'étais un persécuteur de l'Église, la pire des choses. et dit Dieu m'a fait grâce. Il dit, bah, s'il m'a fait grâce, il peut vous faire grâce. Hein. Vous n'avez pas fait ça, hein. Vous n'avez pas fait pire que moi, il dit. Hein, donc, vous pouvez venir et cela. Et puis, lorsqu'on vient à Christ, tout d'un coup, eh bien, il emploie le mot d'être baptisé en Christ, d'être baptisé, d'être introduit comme on peut être trempé dans l'eau et puis ça se dissout et le sucre il disparaît. Mais il est toujours là, hein, l'eau est sucrée. Mais on voit plus le sucre. Et de même, il dit, vous pénétrez, vous faites partie de ce corps, vous en faites partie intégrante. Et je suis en vous, vous êtes en moi. Et personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et donc, mon salut est garanti. C'est pas parce que j'ai bien prié, j'ai prié la bonne prière, c'est pas parce que... Non, c'est parce que je suis en Christ et Christ est en moi. Et comment est-ce que je sais que Christ est en moi? Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et donc, là, nous voyons que Dieu a pu réaliser son projet qu'il avait préparé dès avant la fondation du monde. Connaissant ceux qui viendraient à lui, il les a rassemblés, non pas par une présélection ou par une sélection, mais par il les a rassemblés, et puis il a fait d'eux ses enfants, et ses enfants, eh bien, il les prédestine à devenir, à être à l'image de Jésus-Christ. Et donc, voilà la beauté du message, le mystère de Christ, un mystère, mais qu'on n'aurait pas pu comprendre tout seul, parce que c'est contre la mentalité des hommes. Peu importe notre culture, et quelque part, on se sent toujours différent des autres, autre que les autres, et puis lui, il n'est pas des nôtres. Mais en Jésus-Christ, on appartient les uns aux autres, et on est en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en nous, gloire à son nom. Et donc, il se peut qu'on ait des idées qu'on a hérité de notre éducation, des idées préconçues, des choses, bon, pas que quelqu'un ait des mauvaises intentions ou des choses, mais il y a des choses qu'on a acquises comme ça, hein, en passant dans le monde, et on doit demander au Seigneur de nous pardonner, de nous faire penser autrement et de penser comme lui pense. Hein. La seule manière de penser juste, c'est pas de penser comme Steve Barnes, mais de penser comme Dieu pense. Hein. Même si ses pensées sont élevées au-dessus des pensées des hommes, comme le ciel est au-dessus de la mer, de la terre, mais nous devons essayer de penser ses pensées après lui. Nous allons prendre quelques moments de silence et que chacun prie et déjà remercier Dieu pour un beau plan pareil. Et puis deuxièmement, de voir comment ça peut influencer ma vie et dire moi je veux faire partie de ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je veux faire partie de cela. Et on y accède par la foi en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort, il peut nous l'offrir. Maintenant, c'est à nous de l'accepter et dire, c'est ça que je veux. C'est ce christianisme-là que je veux et pas autre chose. On va prendre quelques moments de silence, après quoi je prierai.